Bonjour, et bien pour cette émission, Les mots de la foi, nous nous retrouvons avec Elisabeth et Raymond donc, pour lire l'exhortation apostolique du pape François, Gaudete et exultate, réjouissez-vous et exultez de joie. Nous en sommes au quatrième chapitre, dans lequel le pape propose de comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle, c'est au numéro 110, et n'hésitez pas à aller chercher ce livre chez le libraire. On se réjouit, ça n'est pas difficile à lire, on ne s'endort même pas.
Alors dans ce chapitre, le pape nous dit qu'il va expliciter quelques aspects de l'appel à la sainteté.
Voilà, donc la question c'est quel est le style de vie où Jésus nous appelle, et puis il nous dit, eh bien, je ne vais pas simplement prendre les sacrements, etc., les diverses formes de dévotion que l'on connaît, mais retenir ce qui résonne de manière spéciale. Alors d'abord pour lutter contre un certain nombre de choses, et notamment, il nous dit l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit, la négativité et la tristesse, la sédie commode, consumériste et égoïste, l'individualisme et de nombreuses formes de fausse spiritualité. Donc ça, c'est l'envers de l'amour. Oui. Et puis, il nous donne le mode d'emploi positif.
Alors, la première caractéristique, c'est l'endurance, la patience et la douceur.
Et alors pour cela, il faut être, je cite, centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient.
Voilà. Oui, c'est ça qui permet de supporter les contrariétés, toutes les agressions de la part des autres, leurs infidélités, leurs défauts.
Et pour ça, alors là aussi, c'est intéressant parce que tous ces propos sont appuyés sur l'Écriture. Et là, c'est en Romains 8. Si Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous? Voilà la source de la paix, Dieu.
Parce que c'est ça qui va nous donner la force intérieure qui permet cette patience, la constance dans le bien, la fidélité de l'amour. Parce que si on s'appuie sur Dieu, on est en même temps fidèle aux frères.
Voilà, premier point. Et puis deuxième point, ne pas rendre le mal pour le mal.
C'est ce que disait déjà saint Paul dans les Romains. Ne pas vouloir se faire justice à soi-même, à être vainqueur du mal par le bien.
Et là aussi, on s'appuie sur la parole. On a cité saint Paul, mais parce que Dieu lui-même est lent à la colère, mais grand par la puissance. Et puis, aux Éphésiens, aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Donc, pas de colère.
Oui, et ça suppose de lutter contre nos propres penchants agressifs, égocentrique, pour qu'il ne s'enracine pas en nous. Toujours dans les Éphésiens, emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Alors nous dit-il, la paix de Dieu prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Et là, il entre dans le concret de ces lieux de colère. Les chrétiens ne peuvent faire partie des réseaux de violence verbale sur Internet, dans les forums et espaces d'échange digital. Même dans les milieux catholiques, on peut dépasser ces limites. Et il propose le respect d'autrui, le respect de la vérité. Car sur ces réseaux, nous dit-il, et on le sait, on dit des choses qui ne seraient pas tolérables dans la vie publique, en faisant déferler, avec furie, des désirs de vengeance.
Et alors, ça montre bien, là se manifeste sans contrôle le fait que la langue est un monde du mal, qu'elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne.
Voilà, donc, le saint, puisque nous sommes appelés à être saints, c'est le sous-titre de l'exhortation apostolique. Le saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui.
Oui. Il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères. Il évite la violence verbale qui dévaste et maltraite.
Alors ça, c'est assez difficile, puisqu'en fait, bien, tout le monde a la langue bien pendue. Et il nous propose de ne pas regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes, de prétendre donner des leçons constamment. C'est une forme subtile de violence. Réjouis-toi du bien d'autrui comme du tien propre.
Oui, c'est ce que disait Saint Jean de la Croix.
Et il propose que c'est si on en vient là que l'on arrive à s'approcher de la vraie charité. Puis ensuite, il aborde un ensemble de paragraphes sur l'humilité, en rappelant que Jésus-Christ a souffert l'humiliation la plus violente.
Oui, parce que le pape dit l'humilité ne peut s'enraciner en nous qu'à travers les humiliations. S'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a ni humilité ni sainteté.
C'est vrai que c'était un chemin difficile. Il rappelle que les apôtres, après l'humiliation d'avoir été punis après la résurrection et lorsqu'ils prêchaient, étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est dans les Actes. Et le pape évoque, je ne me réfère pas uniquement aux situations cruelles de martyrs, mais aux humiliations quotidiennes. La sainteté, c'est pour tout le monde, et pas simplement dans les périodes extrêmement difficiles et violentes.
Oui, parce que ces humiliations de tous les jours, elles sont fréquentes, et elles sont quelquefois difficiles à supporter. Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu.
Le pape évoque justement que cela nous libère de l'égocentrisme et que, en même temps, cela ouvre un chemin de liberté. Et ça, ça me paraît très très important, parce que souvent, sous couvert de charité, on est bien gentil, on n'aborde pas les vrais maux, les vrais problèmes, on se contente de fait d'en parler entre soi et pas forcément aux personnes intéressées, donc il ne peut pas y avoir de changement. Donc là, il nous dit, c'est libéré de l'égocentrisme que l'on peut oser discuter gentiment, réclamer justice, défendre les faibles face aux puissants. Donc on a là un chemin de libération pour faire la vérité, dire la vérité.
Et le pape ajoute, je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, ce serait du masochisme, mais c'est un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Et c'est pas évident. C'est quelque chose qui ne va pas de soi.
Alors il ouvre, nous dit-il, à une prière. Seigneur, quand arrivent les humiliations, simplement la contradiction peut-être, aide-moi à sentir que je suis derrière toi sur ton chemin. Et il nous dit, c'est cela qui apporte la paix, la même pacification que réalise la grâce.
Et qui permet de persévérer dans le bien, même en traversant, comme dit le psaume, un ravin de ténèbres.
Donc la paix est la paix que donne le Christ, la paix de Jésus. Il rappelle dans cela d'ailleurs Sainte Faustine Kowalska, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde divine. accepter dans l'humilité de dépendre de Dieu et pas simplement avoir l'assurance intérieure dans le succès, les plaisirs vides, la possession, l'image sociale. C'est ma paix que je vous donne. Alors là, on a l'impression qu'on est sur un chemin de tristesse et le pape envisage aussitôt, petite réaction, que tout cela se doit être dans la joie.
Oui.
C'est le titre d'ailleurs de l'encyclique. Oui. Réjouissez-vous. Alors réjouissez-vous, nous dit-il, le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour.
Oui, il éclaire les autres avec un esprit positif, rempli d'espérance.
La joie est conséquence de la charité. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Et pour cela, nous propose-t-il, laissons le Seigneur nous sortir de notre carapace, cela changera la vie. Et puis, il y a une accumulation, c'est au paragraphe 123, de toutes ces instances de joie. Pousse des cris de joie, des clameurs, monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple. Exulte avec force, fille de Sion, etc., etc. La joie.
La joie, et il prend l'exemple de Marie, dont l'esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Et Jésus lui-même, qui tressaillait de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Quand il passait, la foule était dans la joie. Tout ça, c'est des textes qui viennent de l'Écriture.
Et enfin, il rappelle, Jésus nous donne une assurance, c'est après la résurrection. Vous serez triste, puisqu'il annonce son départ, mais votre tristesse se changera en joie. Je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Et en Jean, toujours, on retrouve cette joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Bon, cela n'empêche pas les moments difficiles.
Oui, bien sûr. Il y a toujours ces moments de croix à supporter, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle. Elle s'adapte, se transforme, demeure au moins comme un rayon de lumière, même s'il n'y a plus que ça.
Elle s'accompagne du sens de l'humour, éloigne de ton cœur le chagrin. Et puis, il propose, « Mon fils, traite-toi bien, ne te refuse pas le bonheur présent. » Ça, c'est dans Siracide. « Au jour du bonheur, sois heureux. Dieu a fait l'homme tout droit et lui cherche bien des calculs. » Là, c'est dans Coëlette. Gardez un esprit souple. Il évoque saint François d'Assise, ému de gratitude devant un morceau de pain dur. Et puis, il propose une prière, et c'est avec cette prière que nous allons terminer cette émission.
Alors, c'est une prière qui est attribuée à saint Thomas More, qui commence de façon assez amusante. Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Bonne semaine à tous, au revoir.